dans l'esprit des gens. Souvent, quand Dieu se manifeste, c'est pour juger, pour frapper. Et dans la Bible, c'est plutôt pour apporter la grâce et la bénédiction du Seigneur. C'est quoi Noël ? C'est la révélation de Dieu pour nous. C'est une manière pour nous de comprendre qui est Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment que nous prenions le temps de réfléchir à qui est ce Seigneur qui a fait que Noël existe, qui a fait que le Fils de Dieu prenne la nature humaine et devienne homme et vive parmi les hommes. Si je veux faire cela ce matin, c'est dans un seul but, que chacun de nous puisse dire avec l'apôtre Paul, aux profondeurs de la sagesse, de la science de Dieu, que ses voies sont insondables, aux profondeurs de la sagesse et de la science. Parce que Noël, c'est vraiment l'occasion pour nous de nous émerveiller devant l'incomparable, devant l'admirable que nous venons de chanter. Alors, nous allons lire ce passage dans Luc chapitre 2. Nous avons déjà lu plusieurs versets et j'irai jusqu'au verset 14. Et donc, si nous lisons ces versets, c'est pour nous rappeler et peut-être découvrir qui est vraiment notre Dieu. Quelles sont ses qualités? Quelle est la nature de ce Dieu qui fait que Noël existe? Alors, nous allons d'abord lire Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. Alors, je vais lire dans la version 8 secondes. « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent alors saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alors, on connaît le dernier verset, même en latin. « Gloire à Dieu dans les lieux très haut. » Qui le connaît en latin? Nous tous. Ah, nous chantons tous « Gloria in excelsis Deo ». Bon, en fait, c'est ça. Ça veut dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Peut-être que vous avez déjà entendu ce cantique, peut-être que nous le chanterons cet après-midi ou une autre fois. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Plusieurs qualité se manifeste ici dans ce passage et qui concerne notre Seigneur. Qui est Dieu ? Ou plus particulièrement, qui est Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible. Parce qu'il y a d'autres dieux qui ne ressemblent pas au Dieu tel qu'il se dévoile dans la Bible. Alors, la naissance du Christ nous révèle d'abord que Dieu est souverain. Dieu est au contrôle de toutes choses, non seulement de l'histoire humaine, mais de toute la création qu'il a faite. Dieu, notre Dieu, est un Dieu souverain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire souverain ? Ben, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Il dirige les circonstances et les hommes pour accomplir sa volonté et son projet pour l'humanité. Si vous remarquez les versets 1 à 7 que nous avons lus, ce sont des versets qui nous présentent les circonstances dans lesquelles Jésus est né. Vous savez, Jésus, c'était le Messie. Les prophètes avaient annoncé depuis longtemps que le Messie devait naître, où ça ? À Bethléem. Mais voilà que Marie et Joseph, eux, ils sentent où ça ? À Nazareth. Et entre les deux villes, il y a quand même 3 jours de marche. À cette époque-là, c'était comme entre la France et la Chine, un peu loin. C'était pratiquement une aventure que de descendre de Nazareth vers Bethléem. D'autant plus que Marie et Joseph étaient pauvres et n'avaient pas vraiment les moyens de faire le voyage. Alors le Seigneur, pour que la prophétie s'accomplisse, il va mettre en mouvement les choses. Et pour cela, il va choisir un homme, vous savez où ? À Rome, Auguste. Et il va mettre sur le cœur de cet homme d'ordonner un recensement. Et la décision de César Auguste, qui était à Rome, va avoir des répercussions sur un pays très lointain, la Palestine, et sur des gens inconnus, Joseph et Marie. Parce que quelqu'un à Rome a ordonné le recensement, Joseph devait prendre avec lui Marie et aller jusqu'à Bethléem parce que c'était la ville de ses ancêtres et il devait se rendre là-bas pour se faire recenser avec sa femme. Ben vous voyez, quand nous regardons la naissance de Jésus, on voit que Dieu a fait concourir plein de choses, énormément de circonstances, pour que ce qu'il avait dit bien avant s'accomplisse. Ce n'est pas que Dieu a juste lu ce qui allait se passer, et il a vu, il a dit, ah bah tiens, voilà ce qui va se passer. Non, il a déterminé, il a décidé comment les choses allaient se dérouler et comment les choses allaient se passer. Dieu contrôle tout, il contrôle les décisions des hommes, il contrôle la nature. C'est lui qui a voulu qu'une étoile brille à un moment donné et guide des gens jusqu'au lieu où la naissance de l'enfant a eu lieu. C'est lui qui a décidé que des mages allaient se lever et faire un long voyage pour découvrir l'enfant nouveau-né. C'est lui qui est apparu à ses bergers à travers les anges pour leur annoncer la bonne nouvelle. Dieu dirige vraiment tout. Il contrôle même les Césars Augustes. À cette époque-là, c'était le top du top. On ne pouvait pas être au-dessus. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit que Dieu dirige le cœur d'un roi comme un courant d'eau. Il le mène là où il veut. Vous voyez un courant d'eau ? Dieu le contrôle. Il le dirige parce qu'il veut, par exemple, que ce courant arrose tel jardin ou tel arbre. Et c'est lui qui fait en sorte que le cœur d'un roi soit orienté comme lui le veut. En ce premier Noël où Jésus est né, Dieu s'est réellement et totalement occupé de son Fils. Et dorénavant, nous pouvons être certains que Dieu s'occupe totalement et royalement de ses fils, qui sont ses fils par le Fils en qui ils placent leur confiance. Si Dieu a pris soin de son Fils premier-né, le Christ, alors il prend soin de nous qui sommes ses fils. Et s'il a agi pour nous montrer qu'il était souverain pour diriger toute chose pour l'accomplissement de sa volonté, c'est afin que nous, nous soyons convaincus de cette vérité-là. La souveraineté de Dieu est la plus belle des nouvelles pour les chrétiens, en particulier pour les hommes de manière générale. Si Dieu n'était pas au contrôle, le monde irait déjà qu'il va très mal. Mais si Dieu n'était pas au contrôle pour freiner les choses et les diriger vers un but, le monde serait vraiment catastrophique. Le Seigneur n'a pas contrôlé simplement le cœur d'un roi pour qu'il ordonne un recensement et qu'à partir de là, les choses se succèdent. Il ordonne toutes choses. Dans Galates 4, verset 4, il est marqué « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Cela veut dire que Dieu a fixé un moment et dans le calendrier de la création, Dieu a mis une croix pour un jour et il a dit, c'est ce jour-là que j'enverrai mon Fils. C'est ce jour-là que Jésus va naître et je vais diriger toute chose pour que sa naissance soit la plus opportune possible. Dieu a fixé un bon moment, ça veut dire qu'il a déterminé toute chose, non seulement la naissance de Jésus, mais les événements qui allaient se produire avant, après et alentour pour que la naissance du Christ soit au moment opportun. Rien qu'un exemple. Dieu a fait en sorte que la langue grecque soit la langue presque universelle à ce moment-là. C'est-à-dire que vous pouviez aller partout où vous voulez, vous pouviez être compris par d'autres. Et c'est ainsi que le message de l'Évangile s'est répandu tellement vite, parce que les apôtres, partout où ils allaient, ils pouvaient se faire comprendre en parlant grec. C'était, le grec, on l'appelait d'ailleurs, la langue commune, c'était ce qui était vraiment le plus commun. Mais on peut remonter bien avant pour dire que si la langue grecque est devenue commune, c'est parce que Alexandre le Grand a envahi tellement de pays, tellement de villes, et il a fait en sorte que la langue grecque devienne la langue de ces pays. Et donc Dieu, il a projeté, il a travaillé depuis longtemps. Et c'est pour ça que dans notre vie, il y a des choses que Dieu pose mais dont l'effet ne peut paraître que beaucoup plus tard. On ne sait pas ce que Dieu fera dans notre vie à travers ce qui nous arrive aujourd'hui. Peut-être que dans 25 ans, peut-être que dans 30 ans, nous pourrions dire, mais c'est vrai, Dieu a préparé ça il y a longtemps, et c'est aujourd'hui que le fruit peut être recueilli. Comme il a envoyé, et il a permis qu'Alexandre répandre la langue grecque pour qu'un jour elle devienne le véhicule de la bonne nouvelle. Tout ce qui nous arrive en tant que chrétiens, nous savons que cela nous arrive parce que Dieu l'a décidé dans notre vie. Et si Dieu l'a décidé dans notre vie, ça ne peut pas être pour le mal, mais au contraire pour le bien. Et si Dieu permet que quelque chose nous arrive, c'est afin qu'il en soit glorifié, afin qu'il manifeste, qu'il s'occupe réellement de nous, comme il l'a fait de son Fils Jésus-Christ. Alors je continue. Après la première qualité que nous venons de voir, disant que Dieu, notre Dieu est un Dieu qui est souverain, la deuxième qualité que nous voyons ici, c'est que notre Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu ne reste pas caché. Vous avez vu le verset 9, il dit « Voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Alors, nous, souvent, c'est la première chose qui nous frappe. Un ange leur apparut. Non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a la gloire du Seigneur. Il y a un ange, mais il y a plus que l'ange. Il y a la gloire du Seigneur qui resplendit autour d'eux. Vous savez ce que c'est que la gloire du Seigneur ? Ce n'est pas la lumière de l'ange, c'est le rayonnement de Dieu lui-même. Et peut-être que l'ange est devenu invisible alors qu'il est resplendissement de lumière, l'ange. Eh bien, la lumière de Dieu, sa gloire qui apparaît, a dû l'éclipser tellement cette gloire est éblouissante. Mais la gloire de Dieu, c'est Dieu en tant qu'il se manifeste aux humains. Parce que Dieu ne peut pas nous apparaître tel qu'il est en lui-même. Vous savez pourquoi ? Ben, nous mourions. Si Dieu faisait en sorte d'apparaître tel qu'il est en lui-même, nous serions foudroyés et vraiment morts sur le champ. Alors Dieu choisit de se révéler à nous à travers sa gloire. Et déjà, c'est énormément effrayant, parce que les anges qui voient la gloire de Dieu sont totalement effrayés. Mais Dieu ne se révèle pas pour les juger, pour les condamner, comme ils l'ont pensé. Parce que vous savez, quand Dieu apparaît à quelqu'un, la première chose, c'est la peur et la crainte. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais me faire taper sur les doigts. Et pourquoi ? Parce que nous sommes coupables et nous nous sentons coupables. Et dans la présence de Dieu, notre culpabilité nous saisit de manière plus particulière. Mais Dieu, ici, vient avec une bonne nouvelle. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai une grande nouvelle pour vous. Dieu ne se révèle pas ici pour juger, mais pour sauver. Quand Dieu se manifeste dans sa gloire, c'est toujours pour être dans l'action en faveur des humains. Quand Dieu se révèle dans sa gloire, c'est pour faire quelque chose de positif pour les hommes et les femmes. Alors peut-être que certains disent, mais c'est normal, hein. En réalité, ce n'est pas normal que Dieu se révèle, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'était pas révélé tel qu'il était réellement. En tout cas, il s'est révélé de manière bien imparfaite, bien incomplète. Il y a des passages dans l'Ancien Testament où nous voyons que Dieu se cache. Je vous lis deux exemples. Ésaïe 45, verset 15. « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Tu es un Dieu qui te cache. » Un autre passage, Job 36, verset 30. « Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache dans les profondeurs de la mer. » Dieu se cache. Et Paul nous dit dans 1 Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible, inaccessible. Dieu se cache. Ou plutôt, ce sont les hommes qui ont fait en sorte que Dieu se cache. Ou plutôt, ce sont les hommes qui ont fini par se cacher parce qu'ils ont peur de Dieu. Vous savez, c'est l'histoire de l'humanité. Depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, les hommes, d'une manière consciente ou inconsciente, ils ont peur de Dieu. Et pourquoi ? Ben parce que notre premier ancêtre s'est caché de Dieu. Quand Adam a transgressé la loi que Dieu lui avait donnée, Dieu est venu pour le chercher et qu'est-ce que Adam a fait ? Il s'est caché. Il a fui la présence de Dieu. Ce que Dieu voulait, c'était d'être dans la présence des humains. C'est de se donner aux humains, d'être en communion avec eux, de partager leur vie et qu'eux partagent la vie du Seigneur. Mais les hommes ont choisi les ténèbres. Ils ont choisi de se séparer de Dieu. Ils ont choisi de renoncer à Dieu et de préférer les ténèbres. Notre Seigneur Jésus a dit, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Au fond de nous-mêmes, de manière inconsciente, quand nous sommes dans notre chambre et seul à seul avec nous-mêmes, nous prenons conscience que devant Dieu, nous ne pouvons pas faire le poids. Nous ne ferons certainement pas le poids. Et cela nous effraie et cela nous fait fuir loin de la face de Dieu. Qu'est-ce que la révélation de Dieu ? La révélation de Dieu, c'est l'escalade d'un mur que les humains ont construit pour qu'ils soient séparés de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, nous dit que les hommes ont construit un mur par le péché qu'ils ont accompli. Ce sont vos péchés qui ont construit une séparation entre vous et moi, dit Dieu, dans Ésaïe 59. Le peuple d'Israël reprochait à Dieu de rester loin, de se cacher. Et Dieu leur dit, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez construit un mur. Et ce mur, ce sont vos mauvaises actions, ce sont le mal que vous avez accompli. Et ce mal vous tient loin de moi. Mais Dieu, malgré la situation des hommes, malgré leur fuite loin de Dieu, lui, il a décidé, notre Seigneur a décidé d'escalader ce mur de péché pour passer de l'autre côté et pour dire aux hommes, « Je suis là avec vous. » Mais l'escalade de ce mur de péché ne pouvait pas se faire de manière aussi simple que ça. Parce que escalader ce mur de péché, le seul moyen pour Dieu, c'était que ce mur disparaisse. Et pour que ce mur disparaisse, il a fallu que Jésus vienne dans le monde et qu'il soit l'instrument de destruction de ce mur. Jésus est venu et il a frappé ce mur pour qu'il se détruise. Mais il n'avait pas de massue, il n'avait pas de bulldozer, il avait un corps humain. Et c'est ce corps qui a été frappé. C'est ce corps qui a fait en sorte que le péché qui nous sépare de Dieu soit abattu, soit supprimé, pour que ce mur n'existe plus et que nous soyons à nouveau dans la communion avec notre Seigneur. Peut-être que vous pensez que la révélation de Dieu n'a pas beaucoup d'importance. Mais si Dieu ne s'était pas révélé, nous ne pourrions jamais le connaître. Vous savez qu'il n'y a que dans les autres religions que les hommes peuvent par eux-mêmes découvrir qui est Dieu. On vous donne plein d'images. Tu veux savoir qui est Dieu ? T'as qu'à aller à la Mecque. Tu veux savoir qui est Dieu ? T'as qu'à te concentrer en toi-même, il est à l'intérieur de toi, tu vas le trouver. Tu veux savoir qui est Dieu ? Tu n'as qu'à faire ceci ou cela. Ce n'est absolument pas possible. Parce que Dieu est infiniment grand. Il est au-delà de toute connaissance. Et si Dieu lui-même n'était pas venu pour nous dire « Voici qui je suis », nous ne pourrions jamais le connaître. Et Dieu s'est fait connaître à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à travers lui qu'il s'est donné à connaître pour chacun de nous. Nous pouvons vraiment remercier Dieu pour cela. Parce que ça nous montre que Dieu s'intéresse totalement à chaque être humain. Alors que c'est lui qui aurait dû tourner le dos. C'est Dieu qui aurait dû nous dire, bon, maintenant je vous abandonne à votre choix, au choix de vie que vous avez fait. Non, Dieu a dit, vous m'importez tellement. Je veux que vous soyez avec moi et non pas séparés de moi. Et si vous vous dressez un mur contre moi, moi je le détruis pour que ce mur n'existe pas. Je veux vous apparaître tel que je suis en moi-même. Nous pouvons connaître que Dieu est puissant, nous pouvons voir l'existence de Dieu à travers la création, mais nous ne pouvons jamais savoir que Dieu nous aime à un point tel que nous le découvrons dans la Bible. Il a donné son propre Fils pour nous. Donc, la première chose, c'est que Dieu est un Dieu qui est souverain. La deuxième chose, c'est que notre Dieu est un Dieu qui se révèle. Il vient à nous pour nous apporter le salut et il nous fait connaître qui il est vraiment. Un Dieu qui nous aime et qui se dévoile en détruisant le péché. La troisième chose, c'est que notre Dieu est un Dieu qui est favorable aux méprisés et aux rejetés. Les versets 8 à 10 nous disent « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendait autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Pour comprendre combien notre Dieu est un Dieu qui s'occupe des méprisés, il faut d'abord que nous regardions le message qu'il a donné à l'ange, qu'il a donné au berger par l'ange. Dieu, tel qu'il se dévoile dans la Bible, est un Dieu qui est favorable aux plus petits, aux plus humbles. Et nous le voyons déjà à travers ce message. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit à ces bergers à travers l'ange? Je vous annonce une bonne nouvelle. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Littéralement, je vous évangélise. Je vous évangélise. Alors, c'est quoi évangéliser? C'est annoncer une bonne nouvelle. Quand vous évangélisez, vous annoncez une bonne nouvelle. Ce n'est pas « Dieu va t'éclater », c'est « Dieu va te sauver ». La bonne nouvelle, c'est que Dieu a escaladé le mur. Il a surmonté les obstacles que tu as dressés toi-même devant lui. Et bien que ne le voulons pas, Dieu a décidé de venir jusqu'à toi pour que toi, tu le veuilles maintenant. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. L'ange est en train de leur dire quelque chose d'extrêmement précieux. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'elle va faire éclater les cœurs en joie et en allégresse. Elle sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Nous avons une bonne nouvelle à partager avec les autres, parce que Dieu a partagé avec nous d'abord cette bonne nouvelle. Si nous pouvons évangéliser, c'est parce que nous avons été évangélisés. Et parce que Dieu lui-même a été le premier évangéliste à travers l'ange ici. L'ange proclame la bonne nouvelle et nous proclamons aussi la bonne nouvelle. Je vous évangélise. C'est quoi cette bonne nouvelle? Il vous est né un sauveur. Et il y a un autre mot. Il est le Seigneur. Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que vous pensez que vous n'avez besoin d'être sauvé de rien. Mais nous avons tous besoin d'être secourus. Nous avons tous besoin d'une main tendue pour nous arracher à la... au péché, au malheur, aux détresses dans lesquelles nous sommes. Et cette main tendue, elle ne peut pas être la main d'un homme, parce qu'elle ne sera jamais assez forte pour nous arracher au danger dans lequel nous sommes. Par contre, cette main, c'est Jésus. La main tendue de Dieu pour nous arracher du péché, c'est Jésus qui est venu pour être cette force en nous et pour nous, afin de nous libérer et de nous secourir. Si vous n'avez pas répondu à la main tendue de Dieu, c'est aujourd'hui que vous pouvez le faire. Dieu vous tend sa main, il vous dit, je veux vous sauver, je veux vous arracher au péché, je veux vous offrir une nouvelle vie, je veux être votre Seigneur. Quand nous proclamons que Jésus est notre Seigneur, c'est pour notre bien, c'est pour le meilleur pour nous, parce que nous nous mettons sous le commandement de quelqu'un qui va nous conduire vers le meilleur pour notre vie. Dieu, aujourd'hui, tend la main à chacun de vous, à chacun de nous, et il te dit, prends ma main, parce que je veux t'arracher à ton péché. Je veux te sauver. Je veux que tu ne restes pas au-delà du mur que tu as construit, mais que tu viennes de mon côté. Ou plutôt, je suis venu de ton côté. Reconnais-le, le mur que tu as construit, tu peux le voir détruit et plus rien ne nous séparera. Parce que Dieu n'est pas contre nous. La bonne nouvelle, c'est ça. Dieu n'est pas contre nous. Dieu, il est pour nous. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que Dieu a tout fait pour que nous sachions qu'il est prêt au grand sacrifice pour notre paix, pour notre joie, pour notre bonheur. Le Seigneur, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui est né. Plus exactement, ce n'est pas simplement un homme qui est né. C'est le Fils de Dieu qui est né. C'est le Seigneur, celui qui dirige toutes choses. Alors, cette bonne nouvelle, elle est extraordinaire. Un sauveur vous est né. Le Seigneur. Et à qui cette bonne nouvelle Dieu l'a donnée? Parce que vous savez, quand vous avez une super nouvelle, vous l'annoncez à qui? La nouvelle du siècle. Bah, à ceux que vous aimez le plus, n'est-ce pas? Vous leur réservez la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, si vous avez une super nouvelle et que vous la dites à quelqu'un d'autre avant celui qui pense être le mieux aimé de vous, là, vous vous créez des problèmes. Hein. Quoi? Tu l'as dit à ta belle-mère avant de me la dire à moi? Mais quelle honte! Et là, vous vous faites vraiment disputer. Hein. Une bonne nouvelle, une super nouvelle, vous ne la confiez pas au journal local. Vous appelez Le Monde, Ouest France, pour dire, regardez, c'est une super nouvelle. Quand vous avez un roi qui naît, vous n'allez pas voir des inconnus pour leur dire, youpi, il est né. Non. Et normalement, cette bonne nouvelle de l'ange, à qui aurait-elle dû être proclamée? Au grand prêtre, qui était le chef des chefs en Israël, à Auguste, qui était dans un palais royal. Mais non, elle a été annoncée à qui? À des bergers, à des gens qui étaient super inconnus. Plus que ça, ils étaient totalement méprisés. Vous savez que les bergers, on n'acceptait même pas leur témoignage. Pour le peuple d'Israël, dans le Talmud, un berger était considéré comme un voleur et un menteur. Alors, son témoignage n'était pas accepté. Et comme ils étaient très souvent derrière leur troupeau, ils n'avaient pas le temps d'aller au temple pour se purifier, on les considérait comme des impurs. Et donc, on ne voulait pas les fréquenter. Et quand ils allaient au temple quelquefois, ils étaient chassés. Autrement dit, la voie de Dieu leur était fermée par des superstars de la religion qui étaient des pharisiens et des scribes à cette époque-là. Et c'est à ces gens-là qui étaient rejetés par tous, qui étaient méprisés par tous, que Dieu a choisi d'annoncer la plus belle des nouvelles. C'est pour leur dire, vous savez, si tout le monde vous rejette, moi, je vous aime. Vous êtes plus précieux à moi que d'autres qui se prennent pour des justes et qui n'ont pas besoin de moi. Dieu est vraiment un Dieu pour les mépriser et les rejeter. Et c'est tellement rassurant pour nous, parce que nous voyons que Dieu agit de cette manière-là tout le temps. Dieu, il prend soin de ceux qui sont faibles, de ceux qui n'ont d'autre aide que Dieu lui-même. Et d'ailleurs, souvent c'est tellement logique, n'est-ce pas? C'est les plus faibles qui ont vraiment besoin de Dieu, parce que c'est les plus faibles, les méprisés, qui crient à Dieu, « Mais Seigneur, je n'ai que toi, aide-moi ». Les forts, les puissants, les riches croient qu'ils n'ont besoin de rien, surtout pas de Dieu. Il y en a qui te disent, « Mon Dieu, c'est mon portefeuille, ça me suffit, ah, j'ai tout ce qu'il faut ». Non, Dieu a choisi d'agir de cette façon-là tout le temps. Quand Paul a écrit aux Corinthiens, il leur a dit, « Vous savez, Dieu agit de manière absurde aux yeux des hommes. Il choisit les choses les plus viles et il choisit les choses les plus folles afin que la folie de Dieu, une manière de parler, hein, soit plus sage que la sagesse des hommes. » Je vous lis le passage dans 1 Corinthiens. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, pour réduire à néant celles qui sont. » Et vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut que personne ne se glorifie. Personne ne peut se tenir devant Dieu en disant, « Je l'ai mérité par ma propre force. Je suis un champion, donc tu fais ça pour moi. Dieu dit le contraire. Et Paul dit aux Corinthiens, vous étiez parmi ces gens-là, méprisés, rejetés, abandonnés. Et nous pouvons nous regarder et nous dire, mais Seigneur, en tout cas, moi, je peux vous dire que j'étais dans un coin pourri, paumé, ignoré du monde, et je ne sais pas pourquoi Dieu a jeté un regard favorable sur moi. Mais vous pouvez vous dire chacun de vous la même chose. J'étais loin, il n'y avait aucune raison pour que Dieu me choisisse. La seule raison, c'est que Dieu agit comme il veut, il est souverain, comme ça lui plaît. Vous savez que les anciens, il y a des philosophes au 2e, 3e siècle qui ont rejeté le christianisme. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu ait choisi des hommes simples pour l'Évangile. Un philosophe qui s'appelait Cels, il en voulait terriblement aux chrétiens. Il dit, mais votre religion est fausse. La preuve, c'est que Dieu, il n'y a que les misérables qui sont sauvés et qui se convertissent. Mais pour nous, c'est la preuve que l'Évangile est vrai, justement. Et voilà, nous pourrons continuer, mais Dieu nous montre dans ce passage tellement de qualités. Donc je recommence, hein. Dieu est souverain, notre Dieu est un Dieu souverain, notre Dieu est un Dieu qui se révèle, et notre Dieu est un Dieu qui s'occupe des méprisés. Mais vous savez pourquoi ? C'est parce que notre Dieu est lui-même un Dieu humble. Quel Dieu peut naître dans une étable ? Allez dans une étable, ce ne seront pas la myrrhe et l'encens que vous sentirez, mais l'odeur des animaux. Ce ne seront pas la pourpre et les tapis rouges, c'est la paille. Notre Dieu est un Dieu humble et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Je vais finir par la lecture d'un passage dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, on a lu tout à l'heure une partie et ça commence par « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant un homme. » Voilà notre évangile, voilà notre Dieu.